Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Et avec ton esprit.
Nous confessons notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois à l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait les cieux et la terre.
Prions. fatigué des choses dites, Seigneur, je viens à toi. Fatigué des choses non dites, Seigneur, je viens à toi. Le cœur déchiré par les luttes insensées, Seigneur, je viens à toi. L'esprit vide de cette lumière, mon Dieu, je viens à toi. C'est vraiment le rien qui se présente à ta grandeur. C'est vraiment le pauvre qui n'a pas de quoi payer, pas de quoi se payer la vie, ni la mort, ni la paix, ni l'espérance. Voilà mon psaume pour aujourd'hui, le psaume des hommes et des femmes épuisés, épuisés par ce qu'ils vivent, plus épuisés encore par ce qu'ils ne vivent pas, ou si peu que cela ne fait pas la mesure. Ce petit peu parfaitement pur et calme et confiant, ce petit peu de sainteté qui changerait le monde. Viens, Seigneur, toi infiniment saint, toi infiniment miséricordieux. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. Il vous pardonne vos péchés et vous conduit à la vie éternelle. Amen. Voici le moment de la prière d'illumination.
Seigneur, ouvre notre intelligence à ta parole et que ton esprit nous éclaire. Amen. Lecture au livre de l'Exode, au chapitre 19. Or, le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne, et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu, hors du camp, et ils se tinrent tous en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Moïse monta.
Lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 10. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Louange à toi, ô Christ. Tout d'abord, merci pour cette possibilité de prêcher ici avec vous ce matin. Il y aurait de nombreuses choses à dire concernant ce passage de l'Évangile bien connu. Tellement connu, parfois, que nous ne réfléchissons peut-être plus au sens de ces paroles bouleversantes, il faut le dire, que nous venons de lire. On pourrait parler de la montagne d'où parle Matthieu, peut-être une des collines non loin du lac de Galilée. On pourrait parler de cette montagne comme étant un nouvel Sinaï à partir de laquelle Jésus communique sa loi, comme Moïse a communiqué la sienne. On pourrait se poser la question de si cette loi est en harmonie ou en contradiction avec la précédente, même si pour l'auteur matthéen, à la différence de l'apôtre Paul peut-être, il est très clair qu'il s'agisse d'un prolongement d'un même mouvement, comme on peut le lire plus loin dans ce sermon sur la montagne. Jésus qui est venu accomplir la loi et non pas pour l'abolir. On pourrait aussi parler de renversement de valeur. De renversement de valeur du fait qu'on est heureux souvent quand on devrait être, entre guillemets, malheureux. Un peu selon la logique de ce monde. Selon ce passage, on est heureux quand on est pauvre en esprit. Je fais des citations à partir de la Nouvelle Bible Seconde, même si selon la Taube, on avait une jolie formule qui était « pauvre de cœur », quand on est pauvre de cœur. Donc, on est heureux aussi quand on pleure. Contraire de ce qu'on imagine dans la vie de tous les jours, on est heureux quand on pleure. Et je voudrais creuser ces idées de cette pauvreté intérieure et de ces pleurs comme étant non pas source de bonheur, mais peut-être lieu de bonheur. Le don des larmes, comme disaient les puritains autrefois. Le fait qu'on est heureux aussi quand on est persécuté à cause de la justice, etc. etc. Là encore, des lieux de la vie du monde où on n'imaginerait pas être heureux. Et oui, celle ou celui qui incarnerait ces valeurs est à peu près le contraire de ce qu'on imaginerait être heureux. Sans parler de la notion de monde à venir très présent dans ce passage dit et écrit par des personnes qui croyaient que le jugement de Dieu, où toute justice sera renversée, sera pour bientôt, selon le théologien alsacien Albert Schweitzer, au début du siècle dernier. En effet, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de ce texte. Toutefois, comme je viens de le dire, j'aimerais m'arrêter à ces versets « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés » et « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ». Car on peut les considérer comme un tout si on le souhaite. De cette façon, un certain saint Augustin voit en ceux qui pleurent littéralement ceux qui mènent deuil, une tristesse liée au sentiment de pauvreté spirituelle. Pour d'autres exégètes, il a probablement tort. Vous savez, les exégètes ne sont jamais d'accord entre eux. À la différence d'un Jean, par exemple, l'évangéliste Matthieu a souvent une réflexion très terre-à-terre. Il se peut qu'il parle tout simplement de ceux qui sont tristes à cause d'un décès. Quelqu'un qui est parti de ce monde, provoquant la tristesse auprès de ses proches. Néanmoins, cela nous aide à réfléchir, d'autant plus que d'autres textes bibliques vont dans ce sens, dans le sens des pleurs et d'un deuil. Et cela nous amène à nous poser la question: est-ce que nous croyons faire partie de ces personnes qui sont pauvres en esprit, de ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle, comme le veut une note de la Nouvelle Bible Seconde, ou au contraire, faisons-nous partie de celles et ceux qui sentent leur force, ou plutôt qui croient sentir leur force, car selon les Écritures, nous sommes tous des pauvres en esprit, toutes et tous des pauvres en esprit, qu'on ne le réalise ou qu'on ne le réalise pas. De cette façon, peut-être avons-nous l'impression que ces béatitudes s'adressent à nous, ou peut-être avons-nous l'impression que ces béatitudes s'adressent à d'autres, à des personnes porteurs d'handicap, comme on l'a parfois cru, ceux de la fondation John Bost, par exemple, ou bien à celles et ceux qui ont besoin de religion, comme d'autres ont besoin d'opium, de cocaïne, dirait-on peut-être de nos jours. Toutefois, même si on se rend compte de sa pauvreté spirituelle, et paraît-il, selon la logique biblique, cela sera, là encore, contrairement à ce qu'on imagine, signe de bonne santé spirituelle, cela peut-être ne nous rend pas heureux pour autant. Il n'est jamais très agréable de se sentir pauvre, que ce soit spirituellement ou matériellement, finalement. À moins que, et pour moi c'est un des sens profonds de ce passage, à moins que cela nous ouvre à autre chose, à moins que cela ouvre nos cœurs à autre chose, nos cœurs qui sont difficilement ouverts à autre chose quand on ne ressent pas cette pauvreté intérieure. Et quelle est cette autre chose? C'est la consolation de monde futur, selon le texte. Monde futur qui a permis à bien des hommes et des femmes à se porter des situations difficiles dans la vie à travers l'histoire. Je ne vais pas faire un cursus dans l'histoire parce que ça risque de déborder un peu de notre cadre. Mais cela nous ouvre donc à l'idée d'une consolation dans un monde futur devant cette pauvreté spirituelle dont parle Matthieu. Cette pauvreté spirituelle qui ne rend pas heureux en soi, mais qui nous ouvre au bonheur. Ceci dit, ce bonheur, là encore, peut nous sembler loin, dans un avenir lointain. À la différence peut-être de Jésus et ses apôtres, nous ne croyons peut-être pas à la fin du monde pour tout de suite, à la justice, jugement de Dieu pour tout de suite, et le bonheur que cela annonce, ça peut nous sembler un peu abstrait et un peu lointain. Et peut-être on se dit, mais c'est ici et maintenant qu'on souhaiterait être consolé. C'est ici et maintenant qu'on souhaiterait voir la lumière de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se dire, mais on le voit ici et maintenant. Matthieu n'est pas très loquace à ce sujet, du moins dans ce passage. Jean, par contre, d'où l'importance de réfléchir aux Écritures dans leur ensemble, s'exprime davantage à ce sujet. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Un consolateur, mot choisi à partir du grec biblique par l'ancienne Bible seconde, parce que plus parlant que la nouvelle peut-être, plus parlant que ce que ressentent dans le mystère de la foi des millions de croyants sur la planète, consolation de la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme force de consolation auprès de celles et ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle, qui sentent leur pauvreté de cœur, qui sentent pauvres en eux-mêmes et qui mènent deuil par rapport à cette pauvreté. Et je suis sûr que il y a beaucoup de personnes qui vivent très profondément ces choses dans ce lieu. Pour conclure cette courte méditation, où nous avons vu que sentir sa pauvreté spirituelle n'est pas forcément un malheur, comme on pourrait l'imaginer, que cela fait partie, au contraire, de la richesse de la foi, nous permettant d'accueillir la consolation du Saint-Esprit. Pour conclure, écoutons ces quelques lignes attribuées à Judith Gautier, écrivaine du XIXe siècle, qui résume de manière poétique ce que l'évangéliste Matthieu dit de manière prophétique. Et donc elle écrit ceci, « Une voix s'élève douce comme le miel, et les déshérités, oubliant leur tristesse, levèrent les yeux vers le ciel. » Sur la montagne sainte autour du divin maître, les anges étaient descendus et chantaient « Béni soit celui qui fait renaître l'espoir dans les cœurs abattus. » Que nous puissions recevoir nous aussi ces anges du ciel, ou plutôt le Saint-Esprit qui fait sa demeure dans nos cœurs, en apportant la grâce de la consolation. Amen. Thank you.
Dans la paix, prions encore le Seigneur. Pour ceux et celles qui subissent les violences que notre société n'arrive plus à gérer. Dans ce texte des Béatitudes, c'est le futur qui nous interpelle tout d'abord. Vous serez, vous obtiendrez, vous verrez le bonheur, la guérison, la paix, demain, plus tard, mais aujourd'hui. Qu'en est-il pour tous les malheureux du corps, de l'âme et de l'esprit? Qui nous aide, ô Dieu, nous guérit, nous délivre? Beaucoup trop de grands hommes de tous les temps ont trompé leurs citoyens au nom de l'Évangile, en les laissant croire à un futur qui les anéantissait. Alors que la promesse de Dieu pour ce dimanche et pour chaque jour est que le Seigneur nous donne au présent son royaume. Sa promesse est pour les doux, les pauvres, les malades, les persécutés, car Dieu est là pour chacun et appelle l'Église à être là. Les ouvriers, les artisans de miséricorde, de paix et d'espérance dans ce monde. C'est une marche, c'est une prière de foi contre toute apparence. C'est de l'amitié, des mains tendues et qui soutiennent ceux qui peinent, qui meurent par les bombes de tant de dictateurs. Aujourd'hui, ô Père, éclaire l'obscurité de trop d'esprits, les dirigeants, comme en Iran, tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils veulent exister. Aie pitié de tous ceux qui souffrent tout en osant se révolter et soutiens les peuples écrasés par tant de pouvoir. Donne à tous ces migrants que le gouvernement de M. Trump rejette hors de ses frontières une dignité que chaque humain a droit. Nous te confions aussi particulièrement les mamans enceintes, tous les bébés et les vieillards. Aie pitié, Seigneur, et donne de la dignité au peuple palestinien, à tous ceux qui en Amérique du Sud souffrent de la drogue et au Venezuela. Cette nécessité, cette urgence d'œuvrer pour le partage de nos richesses, de notre foi de notre affection, de ressources diverses qu'il faut donner aux frères et aux sœurs que tu mets sur notre route. Quelquefois, c'est tout petit, comme un sourire qui va illuminer la personne rencontrée. Fortifie, Seigneur, le travail, la recherche, la présence de tous les enseignants, les soignants, les gardiens de prison, les artistes, les bénévoles de diverses associations. Inspire-les et quand c'est trop difficile, donne-leur cette liberté de passer le relais. Merci à nos sœurs et frères religieuses et religieux de tout pays qui, par leur accueil, leur service et leur prière, orientent beaucoup de jeunes déboussolés vers le sens de leur vie. En marche, oui, soyons en marche. Merci pour la joie, la paix et la fraternité que nous découvrons et vivons ensemble dans nos différentes communautés d'églises et sociétales. Ô Dieu, lumière, illumine de ta clarté les goûts du monde. Ton Fils est venu nous transmettre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est là et il est toujours à découvrir en nous, autour de nous. Et il nous a confié d'être des vivants sur ce chemin. Lui qui a marché le premier, qui a souffert le premier et qui a espéré le premier en toi, notre Père, créateur d'un monde qui ne ressemble plus au nôtre. Pardonne-nous d'avoir été sourd, muet, victime et bourreau à la fois depuis trop de siècles. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes se lèvent, car éclairés par ta promesse, je suis avec vous tous les jours. Ils nous redisent de quitter nos illusions, nos besoins de pouvoir et nos mensonges, pour nous ouvrir humblement à ta douceur évangélique. Alors que tout temps disent que tu es le Dieu de malheur, toi qui depuis toujours préfères les petits, les brebis perdues, les humiliés, les persécutés. Oui, ils te rappellent dans leur situation de pauvreté extrême, ton Fils, ton unique Jésus. En marche, petit que nous serons toujours, en marche, ensemble, avec notre présence espérante, notre prière, notre foi. Pour tous les soldats de toutes les guerres, dans trop d'endroits, de ta création, pour toute leur famille, nous te prions. Pour les gouvernements qui ne cherchent que la division et restent sourds aux demandes de paix, aie pitié, Seigneur. Pour les églises, ses membres et ses pasteurs qui ne cherchent plus ta présence d'unité et préfèrent le règne du monde. Seigneur, nous avons tous et plus que jamais besoin dans notre quotidien ton souffle saint. Arrêtons-nous pour l'écouter. En acceptant notre pauvreté d'enfant du Père, mais aussi comme le Fils, en nous laissant toujours inviter au banquet du royaume et témoigner en vérité. Ils sont heureux, ceux qui marchent derrière mon Fils. Eux, mes fils et filles, se tenant la main, afin que les souffrances du monde n'aient plus le dernier mot.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Seigneur, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous mystère et émerveillement. Que toi, Seigneur, tu sois notre Père. Que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde. Que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons, Seigneur, et d'une seule voix, nous te chantons. Fasse silence devant le Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui au cours du dernier repas prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant à ses disciples, il dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Communion, Seigneur notre Dieu, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection, de son entrée dans la gloire. Élevé à ta droite, il intercède pour nous. Dans ce temps de l'espérance, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que par ce pain et par ce vin, sa présence nous soit donnée. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Nous te prions pour les femmes, les hommes et les enfants soumis à la guerre et à la souffrance. Nous te prions pour les chefs d'État dans leurs grandes responsabilités. Convertis les cœurs et les pensées de tous ceux et celles en prise avec la violence. Fortifie, réjouis et rends victorieux les artisans de paix. Que la paix soit le lien véritable qui nous unit à tous les hommes cette paix que nous ne savons construire nous-mêmes. Ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous. Alors ton nom sera sanctifié, Seigneur, à travers les actes que tu accompliras par nos mains, signe de ton royaume qui vient. Amen. Et comme nous l'avons appris du Seigneur, nous pouvons prier avec confiance. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez, car tout est prêt.
Nous formons un cercle autour de la chapelle.
vous tous qui avez été conviés à la table du Seigneur, allez dans sa paix. Je vous invite à regagner vos places. Rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour le mystère de ton amour et de ta présence, où notre vie s'enracine et reçoit son poids d'éternité. Comblés de tes bienfaits par le Christ, nous louons ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu donnes. Fais-nous vivre comme lui, à la louange de ta grâce, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Que le Dieu de paix, lui-même, vous sanctifie totalement et que votre personne, esprit, âme et corps soit gardée sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.